Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Olivier Naoum.
Bienvenue dans l'oreille aux aguets. Nous retrouvons Jeanne Bordeaux, directrice et fondatrice de l'Institut de la qualité de l'expression. Bonjour Jeanne.
Bonjour Olivier.
Et cette conversation autour de la langue va débuter avec un mot qui colle à cette époque soucieuse de son environnement. Il a tintinabulé à vos oreilles, Jeanne. Il s'agit de biodiversité.
Oui, c'est l'année même de la biodiversité, Olivier. Alors normalement, c'est chercher à mieux comprendre les liens et les interactions existant entre les espèces et leur milieu de vie. Ça influence même la publicité, puisqu'on voit des publicités où on devient des formes d'hommes animaux. Et tous ces liens doivent donc nous intriguer ou nous gratter un peu l'inconscient collectif. Le mot a été inventé par un biologiste américain en 1980, mais en fait, il est important parce qu'il a été repris par un forum sur la diversité biologique et surtout, je vous évite le mot anglais, mais surtout par le sommet de la Terre à Rio en 92, et là, devant cette convention internationale, 190 pays étaient présents et ce mot biodiversité va donc exploser et être là pris en compte par toutes les oreilles.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot scientifique a priori, mais il semble irriguer notre quotidien. Il n'est plus réservé exclusivement à une caste scientifique.
Disons qu'il reste quand même lié à une diversité des milieux de vie, donc on pourrait passer du contenu des cellules à la mare au fond du jardin, mais diversité des espèces aussi quand elles interagissent entre elles, donc ça peut être vraiment l'interaction avec le milieu de vie, mais ça va quand même jusqu'à la diversité génétique. Et peut-être que cette biodiversité s'est bien réattachée au mot « diversité » tout court, qui lui-même est vraiment dans l'air des mots et l'air du temps.
Alors à propos de mots dans l'air du temps, Jeanne, il y a une expression qui résonne beaucoup encore dans l'actualité, c'est le mot « Rom » qui désigne cette population au cœur de l'actualité. Alors ce qui est assez surprenant, c'est de voir combien ce mot suscite de confusion de synonymes. Parce que si vous cherchez le champ lexical qui se déploie autour du mot « Rom », si vous allez en Grande-Bretagne, vous tombez sur le mot « Gypsy ». Si vous allez du côté de l'Italie, on parle de Sinti, donc des appellations qui renvoient à d'autres réalités, notamment à cette origine commune des Roms qui serait le nord-ouest du sous-continent indien. Et puis les synonymes qu'on a aussi dans la langue française, gens du voyage, même si les gens du voyage n'englobent pas exclusivement les Roms. Rome aussi est des fois confondu avec Tzigane, avec Gitan, Romanichel et Bohémien. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que si on se penche sur la définition de Gitan, on trouve le sens suivant. En fait, les Gitans, ce sont les Romanichel de la péninsule ibérique. Et ce qui est intéressant aussi, puisqu'il y a un autre mot qu'on emploie, c'est le mot manouche. C'est que certains manouches se disent manouche à part entière, donc pas du tout Rome. Et c'est vrai qu'on trouve des expressions comme jazz manouche, mais on n'entend jamais l'expression jazz Romanichel. Alors Jeanne, si on parle de Rome, c'est peut-être en fait qu'on tombe là sur un mot qui fait appel au sensible, parce qu'on se souvient que dans de lointaines histoires, dans certains films de KPDP, le Rome, la bohémienne, c'est même une égyptienne. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est là absolument sur un vocable tellement vaste, qui renferme tellement de notions, qu'il fait appel à notre imaginaire? Il désigne presque une peuplade qui n'aurait pas de lieu précis quant à son origine.
Oui, complètement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que toujours, on revient à l'étymologie et là, on voit que c'est géographique et que le mot de départ, vous l'avez dit, c'est l'Inde du Nord. Après, effectivement, par pays européen, on voit la connotation, comme toujours dans les mots, qui a pu être donnée selon, culturellement, l'importance que prit la population. En tout cas, ce qui est très étrange, c'est que le sujet ait provoqué un aussi lourd débat. Je vais sûrement vous faire sourire, dans une époque, au fond, qui est complètement nomade à tout moment.
Ce nomadisme de population est plus surprenant pour la conscience collective que notre nomadisme à nous, qui consiste d'aller d'un endroit à un autre. Comme s'il fallait, pour se revendiquer d'un certain nomadisme, avoir quand même une sédentarité de base, c'est ce que vous dites.
Oui, il y a quelque chose, dans tout cas, comme d'habitude dans tous les mots qu'on est amené à traiter dans nos conversations, Olivier, de paradoxal. On n'a jamais autant parlé de nomadisme, de mobilité. Et tout à coup, que l'on prenne les Roms qui viennent de l'Inde et qu'on prenne tous ces peuples que vous avez cités avec des noms différents selon les cultures, au fond, on a l'air de reprocher, dans cette époque mobile et nomade, beaucoup de choses inconscientes qui se coagulent à des peuples eux-mêmes qui bougent et qui sont gens du voyage. Mais c'est très curieux. J'aimerais vraiment que des psychanalystes ou des philosophes aillent plus loin sur tout ce que cela signifie en dehors du langage à propos de nos réflexes.
Et de bohémien en bohémien, d'ailleurs, on remarque qu'à l'heure où tout est possible en un clic, à l'heure de la technologie moderne, eh bien, on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord sur la définition de Romain Michel, comme quoi les mots dépassent le progrès. Et à propos de progrès technologique, Jeanne, vous qui êtes une fan de l'informatique, je n'emploierai pas l'expression anglaise qui commence par un G et qui finit par un K, enfin l'expression américaine, vous qui aimez donc tellement notre technologie, vous avez forcément réagi à ce palabre tactile, parce qu'aujourd'hui, l'écran de votre téléphone, l'écran de votre tablette à la pomme est forcément tactile, sinon ce n'est pas la peine d'en avoir, n'est-ce pas Jeanne ?
Oui, j'aime l'informatique, en tout cas elle m'intéresse, puisqu'on est un homo numericus, alors on ne pourrait pas ne pas s'y intéresser. Mais ce qui est drôle, c'est comment nous faisons toujours des boucles. Alors, on ne peut pas ouvrir un journal sans voir parler de tablettes tactiles, et je ne citerai pas les marques puisque la bagarre devient rude et que se préparent bientôt les cadeaux de Noël, et quelle sera la marque qui sera la plus efficace. Je ne dirai surtout pas performante, mais la plus efficace. Et au fond, on constate quoi ? On constate que depuis la haute antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle, il y avait les tablettes de cire qui étaient ces fameuses planches ou tabula que nous avions en latin. Et l'écriture se faisait en gravant des caractères. Alors au départ, bien sûr, des caractères sur la cire à l'aide de l'extrémité pointue d'un instrument qui était appelé style, qui depuis est devenu stylet. Et nous voilà, nous, Homo numericus, à nouveau en train de jouer avec ces tablettes tactiles. Alors, c'est très curieux parce qu'on retombe dans la navigation fluide, dans cette mobilité. Et on voit que cet objet fascine, qu'un des futurs cadeaux de Noël sera ce stylet et cette tablette tactile. Alors, bien sûr, ça a évolué parce que maintenant, il est associé à une plateforme de contenu, à des services en ligne. Il doit se transformer à tout instant pour nous mener au bout du monde. Mais finalement, on est sur ce nomadisme de la culture et c'est intéressant. Par exemple, vous prenez l'iPad, eh bien, il fait 700 grammes, donc on dirait que c'est un nouveau-né pratiquement prématuré. Et n'avait-il pas que 80 jours, eh bien, il y avait déjà 3 millions d'iPads qui étaient vendus dans ce monde. Donc, on voit bien comment tout se brasse, tout bouge et comment il est difficile actuellement de se dire quelle définition donne-t-on, puisque parfois on va retourner à l'Antiquité pour nommer un objet sur lequel on a l'impression d'écrire, qui peut ressembler à une ardoise, sur lequel on dessine, mais qui nous fait bouger sans bouger à tout moment. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la mobilité, le nomadisme et cette culture qui nous entraîne au bout d'un stylet, peut-être jusqu'en Inde à nouveau.
Alors, puisque vous avez parlé de tactile, terminons avec un poème qui fait appel à nos sens et qui nous rappelle que rien ne remplace la caresse d'une maman. C'est l'auteur des Complaintes gitanes, Federico Garcia Lorca, qui a composé ce qu'il a nommé cette chanson bête. Écoutez bien, Jeanne, vous verrez. Maman, je voudrais être en nageant. Mon fils, tu auras bien froid. Maman, je voudrais être dans l'eau. Mon fils, tu n'auras pas chaud. Maman, borde-moi sur ton oreiller. Ah, ça oui, et sans tarder. Une façon de nous rappeler que finalement, la présence de la maman et du papa garantissent une sorte de quiétude malgré les iPads et autres convoitises numériques.
Et que tout ce qui est touchant est émouvant. Et dans émouvant, on retrouve la notion de motion et de mouvement.
Belle définition et belle conclusion, Jeanne. Au revoir.
À bientôt, Olivier.